Snowpiercer, le transpersonnage. Un train, métaphore d'une humanité perdue et destructrice, file infiniment dans un désert de glace. À son bord, un homme remonte lentement, de compartiment en compartiment, se hissant de la crasse des wagons de queue, où sont entassés les miséreux, vers les voitures dorées de tête, où les nantis vivent dans l'opulence, comme en ascenseur social, absurde et révolutionnaire.
Putain, c'est beau.
Ou alors, en gros, l'histoire du transpersonnage, qui est une bande dessinée de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette, édité en 1982, que Bong Joon-ho adapte en 2013 sous le titre de Snowpiercer, le transpersonnage, et qui sort en salle mercredi prochain, soit le 30 octobre. On l'a tous vu autour de cette table, sauf Yannick. Donc Yannick ne pourra malheureusement pas participer à cette conversation. En tout cas, tous les quatre, nous allons pouvoir en parler. Alors, on va faire peut-être un premier tour de table pour que chacun vous puissiez donner votre avis un peu général sur le film. Ensuite, on pourra lancer la balise spoiler et là, on débattra à fond et on fera un débat contradictoire. Alors, Jérémy, commençons par toi.
Bah, ça commence comme une grosse machine hollywoodienne, je dirais. Ça manque de subtilité au début. On est il y a la musique bien rutilante, les classes sociales bien définies avec les pauvres.
Vous avez surtout dans les wagons de
queue. Les wagons de queue où les pauvres ouvriers sont en train de souffrir et ils bouffent de la merde et c'est dur la vie.
Donc tu as détesté.
Et j'ai détesté au début. J'ai eu très peur au début. Je me suis dit il y va pas avec le dos de la cuillère et j'espère que ça va pas durer. Et finalement, au fur et à mesure que le film s'étoffe, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'univers qui se déploie et là, on retrouve le talent visuel de Bong Joon-ho, on retrouve son goût de l'absurde, on retrouve sa brutalité aussi. Et finalement, c'est quand même une très bonne expérience.
Bon, toi, François, t'en as pensé quoi? T'as bien aimé ou tu partages... Enfin, tu partages l'avis de Jérémy qui a bien aimé, mais un peu ses doutes aussi ou...
Ouais, moi, j'ai pas eu la montée au fil du voyage. J'ai pas réussi à rentrer dans le train, dans l'histoire. Pourtant, j'y allais avec beaucoup d'a priori positifs.
Ah, ouais,
parce que j'aime beaucoup...
Ouais. Tu revenais de revoir
Memories of Murder. Pour des raisons précises en plus, parce que j'y cherchais des choses pour le travail. Enfin voilà, j'apprécie beaucoup comment il construit ses scénarios, comment il construit ses films. Donc j'ai retrouvé le réalisateur, parce que je le trouve toujours aussi fort dans la mise en scène. Par contre, j'ai pas cru au personnage, mais parce qu'il y a une telle rupture, moi je trouve, par rapport à ce qu'il a fait avant, où avant c'était des anti-héros qui étaient toujours mis en avant-plan, à l'avant-plan malgré eux, et bien écrasés par soit un système, soit des hiérarchies, soit des situations qui les dépassent. Là on se retrouve confronté à des vrais héros qui avancent comme des héros, et là où le mélange des genres, moi, me plaisait beaucoup dans ses précédents films, parce qu'il naissait de situations... involontaire, le grotesque venait parce que ces anti-héros essayaient d'être des héros. Là, le mélange des gens, il me paraît un peu forcé et je suis assez spectateur tout le long en fait. Donc jusqu'au bout, moi j'ai pas eu ce...
Donc c'est un peu trop américain pour toi alors c'est...
Ça reste complètement américain. Là justement, dans ces films précédents, encore une fois, je trouvais ça puissant parce qu'ils détournaient des codes des films américains en utilisant des films de genre mais en les contrariant très régulièrement, les maltraitants, mais...
La thématique du héros est quand même interrogée dans le film, peut-être qu'on va en parler dans quelques minutes, une fois
pardon,
qu'on
je sais que je suis lancé, pardon, désolé.
Dans la partie spoiler, parce qu'effectivement, cette héroïsation est assez finalement ambiguë, enfin moi je trouve, donc on revient dans deux minutes.
Pardon.
Toi Alex, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu... T'es plus enthousiaste ou...
Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon film hollywoodien.
T'as aimé ce que François n'a pas aimé en fait quoi, quand même.
Mais en fait moi je suis un grand fan de la BD d'origine et c'est vrai qu'on arrive maintenant en 2013 mais globalement depuis quelques années à pouvoir adapter de façon crédible visuellement toutes les choses, toutes les bandes dessinées qui ont pu nous faire fantasmer depuis les 30 dernières années. On a vu ce qu'a donné Pacific Rim visuellement, on a vu ce qu'a donné Avatar, et c'est vrai que ce qui n'était pas possible il y a quelques années encore le devient, et moi j'ai vraiment été transporté par... c'est un film à grand spectacle. On est dans un train qui représente l'humanité, tout ça. On voit les décors extérieurs et tout. Et enfin, j'ai trouvé ça...
Mais t'as retrouvé la bande dessinée dans le travail qu'a fait Bongeon? Parce qu'il s'en éloigne quand même énormément.
Il s'en éloigne, mais moi, j'ai retrouvé en fait le côté graphique de la bande dessinée. L'esprit graphique est respecté. Pour moi, c'était vraiment très important. Et même si après on se doute que, enfin, on voit que c'est des effets spéciaux, tout ça, j'ai trouvé quand même que l'esprit de la BD était là et que visuellement, moi ça m'a vraiment touché quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment nickel.
Donc le fait qu'ils s'en éloignent et que ce soit une trahison scénaristique de la bande dessinée, t'as pas dérangé parce que tu trouves qu'il y a une transposition de l'univers graphique de la bande dessinée dans le film en fait.
Mais je pense que de toute façon, il a sans doute été. Alors j'ai pas suivi les étapes de l'écriture du scénario, mais il a sans doute été obligé. D'adapter pour des raisons artistiques ou autres, l'histoire est de s'en éloigner.
Je te disais en interview, enfin justement, en tout cas, il y a Rochette qui a fait... Bongeon était à Paris au début du mois de septembre pour présenter le film, notamment à l'Étrange Festival et à la presse. Et Jean-Marc Rochette, qui est le dessinateur de la bande dessinée, l'a accompagné tout du long, était extrêmement content du résultat final, enfin même semble être... plus content que son propre travail, ça lui a permis de retravailler sur le transpersonnage en faisant des peintures, en participant graphiquement au film. Et donc c'est vrai que le fait de finalement s'en éloigner fait qu'il reste quand même pour en tout cas le créateur, donc Rochette, quelque chose de l'esprit de la bande dessinée d'origine qui reste. Après je pense qu'au niveau de l'écriture c'est plus des éléments qu'il a dû vraiment adapter. Il a repris le concept du train, il est parti de là pour faire une autre histoire quoi.
Donc, mais toi est-ce que tu penses qu'il a été fidèle à la bande dessinée?
Je pense que c'est une bonne adaptation parce que c'est une bonne trahison de la bande dessinée, enfin qu'une œuvre cinématographique doit de toute façon adapter dans un médium cinématographique et avoir un vrai travail d'appropriation.
Donc, il y a un vrai travail d'adaptation, c'est pas...
Ouais.
C'est-à-dire qu'il fait,
ça ressemble à un film de Bong Joon-ho, et ça ressemble pas à une adaptation lambda de la bande dessinée. Quoi. Il n'y a que lui qui pouvait faire Snowpiercer de la manière dont il l'a fait. Donc ça, c'est au moins quelque chose qui est réussi. Après, je préfère quand même la bande dessinée pour d'autres raisons, mais en tout cas, le travail d'adaptation a été fait par Bong Joon-ho. Ouais. François, t'as lu la bande dessinée?
Moi, je l'ai lu à rebours, en fait, sur tes conseils. Et bon, je suis pas très client de la bande dessinée, mais je pense que je la lis trop tard. J'aurais dû la lire il y a 10 ans, en 82.
On est allé, c'était bien.
Enfin, j'aime beaucoup le premier tome, en fait, et qui se suffisait à lui-même, qui était très ouvert. J'aime moins les deux suivants, et j'aime beaucoup moins en plus... le dessin en fait qui
alors pour info le premier tome date de 82, c'est écrit par Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette a repris en 1999 l'histoire du transpersonnage
pour en faire une suite en deux parties qui est assez différente effectivement de l'histoire originale. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que le film graphiquement, enfin, ce que tu disais là, je trouve qu'il y a une vraie plus-value parce que je trouve que la BD est assez pauvre pour deux des trois tomes au niveau de la mise en scène. C'est, on est très collé, c'est donc, assez donc peu de détails.
Du
découpage et même des intérieurs. Le premier, j'aimais beaucoup le premier parce que c'était un train très basique en fait. Et Bong Joon-ho, il l'adapte en faisant un truc assez incroyable et je marche du coup. Mm. Par contre, donc l'espace en lui-même me plaît beaucoup dans le film. Après, par contre, il rend la narration très très linéaire. C'est, on va de case en case, de niveau en niveau. Et que du coup, il est obligé à chaque niveau de nous amener dans une surenchère qui est censée nous faire tenir et nous exciter pour arriver. Mais qu'y a-t-il donc dans ce wagon de tête? Et là où il n'y avait pas spécialement la course à l'élu dans la BD, moi c'est un truc que hyper daté, enfin qui me détache.
C'est Matrix quoi.
C'est, ouais, après c'est pas mon école. Après je comprends que ça puisse faire vibrer si on est plus jeune ou je sais pas, peut-être dans une autre logique.
On va annoncer la balise spoiler parce que la question de l'élu et du héros justement est quand même très questionnable sur le final du film.
D'accord.
Donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée ou vu le film, allez-y et revenez pour écouter pour écouter la suite d'ici 2h30. Voilà. Donc
vas-y sur la figure de l'élu, effectivement tu disais.
Pour moi tout s'effondre à ce moment-là en fait. Autant dans The Host, on y viendra après l'accouchement de l'élu. Mais de façon hyper détournée, enfin je pense au père de famille avec sa lance contre le monstre dans le final, qui devient un chevalier malgré lui. Là j'y crois. L'élu pris dans une trame, dans un complot presque de...
Ouais, mais
c'est un faux élu, mais c'est ce qui fait courir le personnage aussi, quoi. Enfin,
pendant tout le film, on se demande s'il va accepter son rôle d'élu, et finalement on se rend compte à la fin que toute cette course n'a servi strictement à rien, si ce n'est à mettre en place une machination sur laquelle il a rien à faire. Et,
on dirait Matrix, hein, tout ça.
Bah, on dirait Matrix,
sauf que... Le final, c'est Matrix.
Le final, c'est Matrix, sauf que c'est pas lui qui sauve l'humanité. Enfin, lui, son parcours ne sert absolument à rien.
En fait, ça devient plus un instrument qu'un élu, finalement.
Ah, j'ai trouvé que c'était...
On le persuade que c'est un élu, finalement. On veut le persuader, mais finalement, c'est un outil...
Et au contraire, c'est totalement anti-hollywoodien sur la résolution, où ces deux autres personnages qui apparaissent comme des drogués un peu malades, qui vont finalement sauver l'humanité en faisant un truc qui est complètement irresponsable et irrationnel, alors que lui, soit il accepte son destin d'élu et il rétablit un ordre social contre lequel il lutte, et en étant élu, il pensait lutter contre cet ordre social, soit il refuse, et dans ce cas-là, il n'y a rien qui change de toute façon. Donc le parcours du héros ne mène à rien. Et ça, j'ai trouvé justement que ça a renversé complètement les codes du cinéma hollywoodien.
C'est un personnage agréable, quoi, en fait.
Ouais, mais ça c'est le wagon de fin. Avant, il y a 2 heures de film, quoi. Ouais, donc la pirouette, je suis content.
Pendant lesquelles tu te demandes s'il va être...
Non,
s'il va être...
Alors, malheureusement, non, quoi.
Moi, je me suis pas demandé, en fait, pour plusieurs raisons, s'il va être l'élu. Alors, la première chose, c'est parce que c'est Chris Evans, que c'est Captain America... Et que si on a pris Captain America, c'est pas anodin. Déjà, si on le prend, c'est pour jouer le rôle principal. Du coup, c'est vrai qu'on a il subsiste toujours un petit doute sur est-ce qu'il va accepter ou pas. Mais globalement, on est quand même, on se doute bien que.
On sait qu'il va accepter, mais. Finalement, qu'il l'accepte ou pas, en fait, c'est le truc que j'ai trouvé bien dans le film, c'est qu'on s'en fout. À la fin, c'est son parcours personnel qui est important. La manière dont il réalise tout cela, mais pour sauver l'humanité et rétablir... sauver l'humanité quand même, être l'élu, rétablir l'ordre social. Finalement, lui n'a pratiquement aucun rôle là-dedans. Il amène un personnage secondaire qui va réaliser en fait ce que lui voulait réaliser. Et ça, j'ai trouvé ça très... Et le fait de prendre Captain America, c'est encore, C'est encore un symbole d'anti, d'être d'un film anti-hollywoodien, en tout cas.
Captain America, on te le détruit quand même, quoi. Le mec, c'est un mec totalement perdu, détruit, et on le manipule. C'est un héros tragique parce qu'on le manipule du début à la fin sans vraiment qu'il s'en rende compte. Et puis quand il s'en rend compte, c'est trop tard. Et d'un côté, il est un peu obligé par la force des choses de faire ce choix. Mais ça, c'est un personnage assez triste finalement, quoi.
Je pense qu'il se laisse aussi dépasser par la situation.
Le personnage.
Ouais, le personnage. Parce qu'il y a une scène assez, assez tragique pour lui, où il y a le personnage joué par Jamie Bell, ouais. Je peux continuer le spoiler?
Bah oui, on est là.
Donc, il a un choix à faire entre le sauver d'une mort imminente ou continuer son parcours vers l'avant du train. Et justement, il choisit, il se laisse entraîner, il se laisse un petit peu dépasser par ça, et il choisit de continuer. Et donc, forcément, c'est la mort pour son compagnon. Après, c'est d'autant plus tragique parce que par la suite, on apprend l'évolution, leur lien. Donc, c'est encore plus tragique. Et enfin, c'est un choix assez étrange qu'il fait au final, parce que bon, après, c'est pour le film, etc., etc. Mais c'est vrai que rien ne l'empêchait en soi d'aller le sauver. Mmh. Et ensuite...
Mais je pense que c'est encore une volonté pour Bongo d'aller encore à contre-courant du cinéma hollywoodien, encore une fois. Parce que une scène comme ça, Captain America aurait été justement sauver le bonhomme.
Et puis à ce côté, quand même, il utilise donc le personnage de Son Kongo, qui est censé être un peu le sidekick pour que lui puisse accomplir sa destinée. Mmh. En fait, c'est l'inverse, c'est Son Kongo qui l'utilise pour accomplir ce qu'il veut faire. Et ça, on se rend compte qu'à la fin aussi, un retour comme ça, c'est le personnage coréen qui utilise Captain America pour arriver à faire exploser la porte, porte du train. Donc,
c'est quand même un Coréen qui sauve le monde, quoi. Ouais. Il perd pas le Nord, quand même.
Bah, non, mais c'est en ça que le film est un peu subversif par rapport à cette idée de super-héros des blockbusters actuels. Qui renverse un petit peu l'image.
Chris Evans
joue bien sa partition parce qu'il est, il, c'est vraiment l'inverse de Captain America pour le coup. C'est dans Captain America, c'est un peu le bonnet qui est là, il est content d'être là. Moi aussi j'adore, mais il est un peu bonnet, faut le dire. Et là tu sens que le mec il est usé par la vie,
Ça justement.
Bah si, quand même, tu sens qu'il est un peu détruit.
Tu sens qu'il est fatigué, mais
il est crevé quand même.
Enfin, moi, c'est un autre problème que j'ai dans le film, quand même, c'est l'incarnation des personnages et de la quasi-communauté de l'anneau qui part
de vraiment. Mais qui est détruite aussi assez rapidement.
Elle est détruite et elle sert à rien en plus.
Elle sert à rien, mais
là pour le coup,
moi, j'aime bien cette idée que il prend des rouages d'un film hollywoodien classique et finalement, en fait, il s'en fout, quoi.
Enfin, c'est ça.
Il fait son film, ça marche sur d'autres niveaux aussi, quoi. Donc,
Peut-être c'est la déception aussi. Je m'attachais beaucoup aux personnages dans les précédents films parce que.
En fait, les personnages n'existent pas.
Ils n'existent pas, c'est des pions, mais après, il faut adhérer à l'idée. Moi,
En fait, c'est vraiment. Il arrive au dernier niveau et puis là, il y a le Puppet Master, quoi. Donc finalement, tous les autres persos, ils sont là, mais finalement, ils ne servent à rien, quoi. Que ce soit la sous-fifre qui gère un peu le tout, pareil, elle est dans la même situation que ceux qui sont à l'arrière du train.
Ça peut se retourner, ça peut être aussi, comme le dit François, un reproche, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de personnage, finalement, qu'il y ait plus des décors, une structure.
Le vrai personnage du film, c'est le train, quoi.
Ouais.
Ce qui était bien rendu dans la BD. Enfin, dans la BD, il y avait la même course inutile d'un personnage qui ne savait même pas pourquoi il avançait, qui était déchargé vraiment de...
Là, ce qui t'a gêné, en fait, c'est un peu la structure en jeu vidéo, un peu, quoi, finalement.
Ouais, la structure en jeu vidéo et...
Ils sont dans un train, donc d'un autre côté. Enfin, le truc, c'est que l'action se passe dans un train, donc forcément, ça va être linéaire, puisque dans un train, c'est soit on va à l'avant, soit on va à l'arrière. Et au final, il n'y a pas vraiment de liberté, quoi.
Moi, la structure, je la trouve dans la
BD, c'est linéaire, mais ils se permettent beaucoup d'aller sur un niveau transversal aussi. Ils passent de compartiment en compartiment, ils se cachent, ils ressortent, ils vont en arrière, ils reviennent. Il y a quand même une mise en espace qui fait qu'à un moment, toi-même, t'es paumé dans la BD. Tu dis, attends, ils sont où?
Il y a Ethan Air là,
Il y a une linéarité en fait dans le film, le personnage va toujours, et ça, ça reprend un peu la structure du jeu vidéo, il va toujours de gauche à droite, hein. Et c'est tout le temps une avancée latérale en fait. Et quand il rencontre un obstacle, la caméra se met en face et généralement vers l'avant. Bon, ça faudrait que j'ai qu'une vision, mais en regardant ça.
Il joue avec les codes du jeu vidéo assez.
Ouais, donc c'est
assez très, finement c'est quand même. Mais c'est, ouais, mais c'est. Bah, en fait, il adapte le, voilà, la structure du train, comme disait Alex, c'est linéaire, il n'y a pas le choix. Et il en fait. Il prend les codes du jeu vidéo pour se les réapproprier, et je trouve ça super réussi. La scène de baston avec les mecs en cagoulé, où il y a la caméra subjective, voilà, t'as l'impression d'être dans Doom ou je sais pas quoi, dans Call of Duty. Et c'est assez prenant, quoi.
Donc, c'est vraiment ma scène préférée. Parce que, à un moment, en fait, bien que le film, bien que la scène soit très violente, il n'y a jamais. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté artistique ou de se dire je veux que le film soit vu par le plus de personnes et j'ai pas envie de me prendre la censure. Mais pourtant, enfin le film, moi je trouve est assez accessible, même si quand on, bon, c'est pas pour les plus jeunes, mais ça reste quand même, il y a pas de surenchère de violence, il y a pas de surenchère de sang, et on met pas du, on montre pas, c'est pas sanguinolent.
Mais la scène est quand même super brutale, quoi.
La scène est très brutale, mais au final c'est assez artistique. Je trouve ça
c'est graphique, plus graphique qu'autre chose.
C'est très graphique, c'est vraiment comme un ballet, quoi, où les mecs ils se mettent des grands coups de hache et ils se maravent tous,
et c'est sans arrêt désamorcé par l'absurde et le...
Donc, finalement... c'est ça, et puis à un moment en fait ce combat, ils sont tous en train de s'entretuer et ce combat s'arrête en plein milieu parce que le train passe par un certain point et c'est donc le nouvel an.
C'est très drôle, ça.
Et ben c'est assez inattendu, je veux dire, en plein combat comme ça, d'un coup ils s'arrêtent tous, tout le monde, ils se regardent tous dans les yeux, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, bonne année.
Ils font un décompte de la nouvelle année. Ouais.
C'est ça, ils font un décompte de la nouvelle année. Et puis une fois que c'est la nouvelle année, bah c'est reparti. On y va et on se remarrave la gueule.
Encore une fois, il désamorce complètement le. Parce que là, on était en pleine bataille, c'était la bataille épique au ralenti avec les haches, les ombres, etc.
Et puis d'un coup, il te coupe ça, vraiment, la hache pour le coup, il te coupe ça et il te balance une grosse scène absurde. Et encore une fois, c'est dans sa volonté de complètement déconstruire le blockbuster, le démonter, quoi, totalement. Quoi.
Ouais, exactement. Enfin,
ouais, mais on avait déjà ça dans Astérix chez les Bretons. À 17h, c'était l'heure du thé, et tout le monde s'arrêtait de se foutre sur la gueule.
Bravo, c'est vrai.
C'est pas faux.
C'est vrai. Bon. Mais il y a la BD, c'est la BD. Hein,
ouais. On parle bien de la BD, hein, pas du film.
Oui, de la BD, oui.
Chez les Bretons, ouais. Mais ouais, c'est vrai, quand tu parles de brutalité, Jérémy, moi je suis moins, et même Alex, moi j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de sang, enfin qu'il y ait, justement il y a des images qui pourraient être très graphiques, moi au début il y a un personnage qui se fait punir, où son bras est frigorifié en fait, on le met dehors, et on voit un plan sur un marteau qui s'apprête à fracasser le bras, et en fait c'est montré hors champ. Et je pense que même sans montrer le sang dans cette scène, montrer l'image d'un bras qui part en 1000 morceaux, donc de 1000 morceaux de glace, ça aurait été très fort visuellement. Et là, je trouve que c'est un peu dommage de pas l'avoir montré. Et je trouve que le film manque un peu des fois d'audace par rapport. Alors ça, je sais pas si c'est une question de volonté de plaire au plus grand nombre ou effectivement de mettre la violence hors champ pour insister sur autre chose. Mais je trouve que ça manquait un petit peu d'audace par rapport à ça, quoi. Enfin, d'audace graphique par rapport au fait de montrer une violence.
Non, mais cette scène, elle s'attarde aussi sur les gens autour, quoi, leur réaction, et puis même le regard du mec. Et je pense qu'il a voulu insister là-dessus, quoi, plus que de se complaire dans quelque chose de plus...
Ouais, mais je me complais dans la violence.
Non, mais toi, t'es un Tarantino-biste. Tu veux du sang, quoi.
Moi, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le transpersonnage pour au niveau des thématiques ou des points abordés.
Non, c'est par contre c'est vrai que c'est, je voulais juste rajouter au niveau de la performance de la mise en scène, quand même c'est un huis clos dans la longueur, de wagon en wagon, mais toujours dans des espaces très restreints. Et tu l'as dit, il reprend un peu les codes du jeu vidéo, mais c'est pas que ça quand même. À l'intérieur de chaque wagon, il arrive à
Il y a un univers à l'intérieur de chaque vanne.
Ouais. Donc il n'y a rien de péjoratif quand je dis qu'il reprend les codes du jeu vidéo.
Non, du tout, c'était juste pour dire, pour ne pas résumer à ça.
Vidéo à Istasia, je tiens à le répéter. Parce que...
Et vous l'avez déjà dit. Non, c'était pas pour aller contre, c'était pour dire que par contre il avait pas une méthode qu'il appliquait à chaque wagon et qu'à chaque fois
il réinvente à chaque passage d'un
c'est un train monde quoi, et vraiment il te à chaque wagon t'as un univers complètement différent et c'est visuellement c'est saisissant
avec une proposition de réalisation qui est assez différente à chaque fois. Moi c'est l'aspect qui m'a plu, parce qu'après l'incarnation, que ce soit dans la violence dont vous parliez, mais je crois même dans la misère des wagons. Des wagons de queue, j'y crois pas trop. Enfin, le rapport à la nourriture, j'y crois pas. Tout ce qui est organique, tout ce qui est charnel, humain, j'y crois pas.
Il boit du cafard, quoi. Bon, voilà, c'est plein de protéines, quoi, j'ai envie de dire.
Donc le train est très réussi, mais bon. Voilà, enfin, je voulais juste.
Moi, je pense vraiment que le chef décorateur, si jamais il peut avoir un prix ou quoi que ce soit, parce que vraiment, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment c'est très beau. C'est il y a vraiment des détails dans chaque wagon, que ce soit un aquarium géant avec pour les sushis, que ce soit la salle de classe, que ce soit la boîte de nuit, enfin il y a vraiment plein d'ambiances. Et le salon de coiffure un petit peu, en fait en plus dans le salon de coiffure c'est une ambiance un petit peu années 50, comme dans tout le un petit côté Orient Express, un petit C'est vraiment néo-futuriste. J'ai beaucoup aimé le. Vraiment graphiquement, j'ai trouvé ça très beau.
Voilà, Yannick, est-ce qu'on t'a donné envie d'aller le voir ou on va finir là-dessus?
Non, pas vraiment. Franchement, un scénario qui a l'air de mélanger la compagnie des glaces et Matrix avec des idées dans Astérix et Obélix et le tout sans une goutte de sang. Je crois que je vais pas me plaindre qu'ils sortent pas en Belgique.
Sublime Yannick.
Bon, bah c'était le mot de Yannick. On va revenir sur les autres films que tu as adorés, j'imagine, de Bong Joon-ho. À tout de suite pour la suite.